Donc on va commencer, inshallah, la deuxième partie. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans notre explication en ce qui concerne la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a par rapport aux musulmans qui font des grands péchés. On a expliqué que celui qui fait un grand péché, il ne sort pas de l'islam, sauf que sa foi est diminuée. Et qu'ils sont entre les Murji'a, qui disent que celui qui fait un grand péché, il a une foi complète, et les Khawarij, qui disent qu'il n'a pas de foi du tout. Donc on est dans le juste milieu entre les deux. On dit qu'il a une foi, mais que sa foi est faible, mais qu'il ne sort pas complètement de l'islam. Maintenant, on va mentionner les preuves de ça. C'est-à-dire la preuve que le musulman qui commet un grand péché ne sort pas de la foi. Le cheikh dit « Adillatu adami khuruj al-fasiq min al-iman »« Mimma yadullu ala anna al-fasiq laysa kharijan min al-iman »« Anna allaha amara bil-islahi bayna al-muqatilina »« Faqala ta'ala »« Wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma »« Fallahu » سبحانه وتعالى جعل الطائفتين من المؤمنين مع أنهما يقتتلان فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ثم قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فجعل الله المقتتلين أخوين المقتتلين أخوين للمؤمنين فدل ذلك على أن الكبيرة التي هي دون الشرك لا تخرج من دائرة الإسلام ومن دائرة الإيمان ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما حكم بالقصاص لأولياء القتيل لأولياء القتيل من القاتل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. Donc le cheikh explique maintenant les preuves pour montrer que celui qui a fait un grand péché ne sort pas complètement de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. D'insulter un musulman, c'est une perversité. Et de le combattre, c'est kufr. Les ulama ont expliqué que dans ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est kufr, ça ne veut pas dire que c'est un kufr qui fait sortir de l'islam. Ça veut seulement dire que c'est une caractéristique du kufr. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui le fait est kafir. Et parmi les preuves de ça, il y a les explications suivantes. Le cheikh dit parmi les preuves que la personne qui est fait, il ne sort pas complètement de la foi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a commandé aux croyants de faire la réconciliation entre deux groupes ou deux individus qui se combattent les uns les autres. Et il mentionne dans Surat al-Hujurat, le verset 9, et si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors réconcilier entre les deux. Donc, on voit dans ce verset-là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait des deux groupes qui se combattent les uns les autres, des croyants, malgré qu'ils se combattent les uns les autres. Et il dit, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, faites la réconciliation entre les deux. Et si un des deux transgresse contre l'autre, alors combattez le groupe qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne au commandement d'Allah. Et si s'il cède, alors faites la réconciliation entre eux en toute justice, parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime les justes. Et après, juste après, il mentionne dans le verset innama al-mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères, alors faites la réconciliation entre vous les frères. C'est-à-dire que le fait qu'ils se combattent, ça ne les fait pas sortir de la foi et ça ne les fait pas sortir de cette fraternité, parce que cette fraternité-là, elle est basée sur la foi, elle est basée sur l'iman. Et donc le fait qu'ils se combattent entre eux, ça ne les a pas fait sortir complètement de l'islam. Donc ça, c'est la preuve que le fait de faire un grand péché, comme par exemple le fait de tuer, ça ne fait pas sortir complètement de la foi. Et il mentionne également comme preuve dans le verset qui parle du talion. Le talion, c'est-à-dire la loi du talion, c'est lorsque par exemple il y a un crime ou il y a quelque chose qui a été fait comme un crime ou une agression contre quelqu'un, eh bien c'est œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Donc c'est ça la loi du talion. Et dans le cas de quelqu'un qui a tué un autre, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 178 dans Surat al-Baqarah, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit la loi du talion au sujet des victimes qui ont été tuées, c'est-à-dire des gens qui ont été assassinés. Ce sera l'esclave pour un esclave, la personne libre pour une personne libre, l'esclave pour un esclave et une femme pour une femme. Celui qui aura été pardonné par son frère, hein, par la suite, il aura à faire face à une requête ou bien à payer un dommage de bonne grâce pour lui. C'est-à-dire, le cheikh il dit, فَعُفِيَ لَهُ يَعْنِي الْقَاتِلْ مِنْ أَخِيهِ يَعْنِي الْمَقْتُولِ فَسَمَّ الْقَتِيلْ أَخًا لِلْقَاتِلْ مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا جعلهما أخوين، فدل على أن الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الملة. لشيخ الزي dans ce verset-là, on dit فمن عفي له من أخيه. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui à qui on a pardonné, c'est-à-dire le meurtrier, من أخيه, de son frère, c'est-à-dire la personne qui a été la victime du meurtre. Donc, le cheikh dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le meurtrier musulman, il l'a appelé par le terme de frère de la victime. Donc, ça dit le meurtrier et la victime sont des frères en islam. Parce que le meurtre, c'est un grand péché, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. D'accord? C'est un grand péché parmi les grands péchés, mais étant donné que c'est moins grave que le shirk, alors ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc le shirk c'est le plus grave parmi tous les péchés. C'est plus grave que le meurtre, c'est plus grave que boire de l'alcool, c'est plus grave que manger du porc, c'est plus grave que faire le zina ou tout autre péché. Si quelqu'un fait tous ces péchés-là, tant qu'il ne l'a pas rendu halal, qu'il ne les a pas rendus halal, il reste toujours dans l'islam. Mais s'il commet le shirk et qu'il s'éloigne de tous ces autres péchés-là, eh bien, il est kafir, il est mushrik. C'est-à-dire, le shirk, c'est plus grave que tous les autres péchés que quelqu'un peut commettre. Donc, ça nous montre le danger du shirk, la gravité du shirk, hein. Et donc, ça, c'est un point très important à comprendre, parce qu'il y a des gens qui font le takfir, qui déclare quelqu'un comme étant kafir à cause d'un péché qu'il a commis. D'accord? Et qu'est-ce qu'on retrouve souvent parmi les jeunes aujourd'hui? C'est de déclarer coupable les dirigeants ou les gouverneurs par rapport au fait qu'ils disent qu'ils ne jugent pas selon la charia, ou ils ne jugent pas selon la loi d'Allah. Et ils mentionnent comme argument le verset qui dit ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Il dit celui qui ne juge pas selon ce que Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les kafirs, sont les mécréants. Et les ulama de tafsir, ils ont tous expliqué ce verset-là en disant que il y a différents degrés, il y a différentes catégories du fait de juger par autre que ce que Allah a descendu. Et ce verset ne s'applique pas uniquement aux juges et aux dirigeants. Il s'applique à tous les musulmans en général. Et c'est de juger dans quoi que ce soit de la vie, que ce soit dans la religion ou dans la dunya, pas seulement dans les questions de peine ou des questions juridiques, islamiques, mais c'est dans tous les aspects de la vie, en commençant par la croyance, en passant par les adorations et les règles de la vie, yani de la vie et les autres principes de la dunya et de la religion. Donc on doit juger dans tous nos aspects de notre vie par le Coran et par la Sunna, c'est-à-dire par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'explique ça pourquoi, parce qu'il y en a qui limitent ça uniquement à la politique et aux dirigeants, parce qu'ils veulent se concentrer sur l'aspect politique et sur le pouvoir, et pour essayer de justifier le fait qu'ils veulent faire des révoltes ou des rébellions ou utiliser faire des actes de terrorisme et utiliser ce moyen-là ou cette excuse-là pour justifier leurs activités et leurs attitudes. Et il n'y a pas de doute que l'islam condamne les actes terroristes et les attentats terroristes et toutes ces activités que font certaines catégories de musulmans ou des groupes d'égarement parmi les musulmans. Et que ça rentre dans les catégories des groupes et des sectes égarés qu'on appelle les Khawarij, dont Bin Laden fait partie. Bin Laden, c'est un de ces égarés-là, et les ulama ont dit que ce sont des égarés, que c'est un égaré, et ceux qui le suivent sont des égarés, et ceux qui le défendent et qui se mettent derrière lui pour le protéger dans ses idées, dans sa da'wah, ils sont aussi des égarés avec lui. Sont des Khawarij. Et donc ça c'est très important de le comprendre. Et d'utiliser ces moyens-là pour essayer d'arriver à établir l'islam ou d'établir une réforme, c'est contraire à la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est contraire à la voie des sahaba, c'est contraire à la voie de tous les salaf salih. Et tous les ulama d'Ahl al-Sunna wal-Jama'a d'aujourd'hui, qui sont connus et respectés, ils ont tous toujours opposé ces voies-là. Et ils ont toujours fait comprendre aux musulmans que c'est des méthodes qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Et que ça ne fait pas partie du djihad de faire ces choses-là. Parce que le djihad, c'est ordonné et dirigé par un dirigeant officiel dans un pays musulman. C'est pas quelqu'un qui se déclare lui-même comme étant un chef ou un représentant d'un groupe islamique et puis qui a pris une allégeance de la part de ses membres et puis qui décide par lui-même de déclarer la guerre à X ou à Y ou à tel ou tel individu ou tel groupe de la population. De faire ça et d'agir de cette manière-là, c'est ce qui amène le chaos et le désordre et l'instabilité et les problèmes dans la société. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit comme résultat? C'est que ça sème le désordre et le chaos et le sang des innocents qui coulent de façon injustifiable. Et l'islam interdit le désordre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wallahu la yuhibbu al-fasad. Allah n'aime pas le désordre dans la société ou dans la vie en général. Donc, alhamdulillah, et donc de déclarer kafir quelqu'un en se basant sur ce verset-là, c'est pas une chose qui est acceptable islamiquement. Et pourquoi? Parce que il y a différentes catégories et ça peut, le verset au sujet de la personne qui juge par autre que Allah, par autre que ce que Allah a fait descendre, peut être différent d'une personne à une autre. C'est-à-dire que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, puis également comme les ulama l'ont clarifié après, c'est qu'il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles quelqu'un juge par autre que la loi d'Allah. Donc ils ont classifié ça en catégories. Ils ont dit, il y a ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah et qui disent que les lois qui sont différentes ou qui sont opposées à la loi d'Allah, ils disent que ce sont des lois fabriquées par les hommes puis elles sont supérieures à la loi d'Allah. Ceux qui disent ça sont des koufars, sont en dehors de l'islam, ils ont quitté la foi, sont pas musulmans ceux qui disent ça. Ceux qui disent qu'il y a une loi faite par l'homme, elle est meilleure que la loi d'Allah, c'est des kuffars. Sans doute, il y a un consensus des savants à ce sujet-là. Maintenant, il y a une autre catégorie. Eux, ils disent, la loi faite par les hommes, elle n'est pas meilleure, elle n'est pas supérieure à la loi d'Allah, mais elle est équivalente. Ceux-là aussi sont des kuffars, ils sont en dehors de l'islam. Ils n'ont rien à voir avec l'islam ni avec les musulmans. Ce sont des kuffars. Ils ont quitté la foi. Et ça aussi, il n'y a pas de doute là-dessus parmi les savants de l'islam à l'unanimité. Et ensuite, il y a une autre catégorie. Eux, ils ne disent pas que la loi des hommes est supérieure. Et ils ne disent pas non plus qu'elle est équivalente. Ils disent par contre que c'est permis de juger par une loi fabriquée par l'homme. Ceux-là aussi sont des koufars, ils sont en dehors de l'islam. Ils ne sont pas croyants. Pourquoi ? Parce que ça implique qu'ils rendent halal ce qui est haram, et qu'ils rendent haram ce qui est halal, et que ça c'est permis. Donc de rendre halal ce qui est haram, c'est kufr. Si la personne qui le fait, elle le fait avec connaissance. Quelqu'un qui sait que l'alcool c'est haram, puis qui dit l'alcool c'est halal, et qui écrit ça, qui fait une loi, puis qui croit en cette loi, alors il est kafir, il a sorti de l'islam. D'accord ? Ou quelqu'un qui dit, c'est permis par exemple de faire le zina, que c'est pas haram, celui-là, s'il a lu le verset dans le Coran qui dit que c'est haram, alors dans ce cas-là, il est kafir. Sauf s'il est ignorant, il connaît pas l'arabe, il n'a jamais entendu l'explication des versets, des hadiths, il ne sait rien, et que tu lui dis, il dit non, c'est pas haram, puis après tu lui expliques, puis il dit ah ok, je ne savais pas. Lui, il est même sans croyant, sauf qu'il était ignorant. Tu lui expliques, il revient à la vérité. Mais si tu lui dis, tu lui prouves, tu lui montres les preuves et tout, puis il ne veut pas croire, et il rejette la vérité, et il dit non, c'est pas haram, dans ce cas-là, il est kafir, d'accord? Maintenant, il y a une autre catégorie, c'est ceux qui vont juger par une autre loi, que la loi d'Allah, mais ils savent que c'est haram, et ils reconnaissent que c'est interdit. Et ils savent que la loi d'Allah c'est meilleur et supérieur, et que c'est obligatoire de juger par la loi d'Allah, et qu'il n'y a rien qui est équivalent à la loi d'Allah, sauf que par ses passions, à cause de ses désirs, ils tombent dans le jugement par autre que la loi d'Allah. Dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Son kufr, c'est un kufr mineur, kufrun duna kufr, comme les savants l'ont expliqué, mais il ne sort pas de la foi complètement. Et c'est ça que les gens d'aujourd'hui, parmi les penseurs et les islamistes comme Sayyid Qutb et d'autres islamistes également, ne comprennent pas et ils n'expliquent pas ça aux gens. Ils expliquent que ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah rentrent dans un seul bloc et qu'ils sont tous dans la même catégorie, qu'ils sont tous en dehors de l'islam. Ça c'est faux, c'est incorrect. Et c'est ça ce qui amène beaucoup de gens à tomber dans l'extrémisme. Donc il faut clarifier, spécifier qu'il y a des différences entre les catégories. Et c'est pas parce que tu vois quelqu'un faire un péché ou ordonner à quelqu'un d'autre de faire un péché que automatiquement ça veut dire que dans son cœur il croit que ce péché-là est licite et halal. Donc il faut faire la différence entre le fait de faire le péché puis le fait de croire que ce péché-là est halal et de le légaliser. Si quelqu'un, par exemple, il y en a qui disent ah mais dans tel pays ou dans tel pays il y a des banques, et dans ces banques-là il y a du riba. Donc, ça veut dire qu'il le déclare halal, puisque s'il ne croyait pas que c'est halal, il n'aurait pas accepté qu'il y ait ces banques-là dans son pays. Non, c'est pas une preuve. Si quelqu'un vend des cigarettes, est-ce que ça veut dire qu'il rend les cigarettes halal? Si quelqu'un vend de l'alcool et qu'il est musulman, est-ce que ça veut dire qu'il croit que l'alcool est halal? Oui ou non? Si quelqu'un vend de l'alcool, est-ce que ça veut dire qu'il croit que l'alcool est halal? Non. Peut-être qu'il le vend parce qu'il veut de l'argent, parce qu'il a peu de foi. Sa foi, elle est faible, il n'a pas assez de foi pour se retenir de faire ce qui est haram, il va aller vendre de l'alcool. Et il y en a des femmes, par exemple, qui ont peu de foi et vont faire zina pour avoir de l'argent parce qu'elles ont peu de foi, elles ne se retiennent pas de faire ce qui est haram, elles vont prendre de l'argent pour des choses comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'elle sort de la foi à cause de ça et qu'elle l'a rendu halal? Non. Peut-être que dans son cœur, elle est remplie de remords et qu'elle sait profondément qu'est-ce qu'elle fait, c'est quelque chose de dégoûtant et qu'elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Bien entendu, elle est une musulmane qui est faible, sa foi est faible, elle est une mauvaise musulmane, c'est une fasiqa, c'est une femme perverse, mais tu ne peux pas dire qu'elle est kafira, tu ne peux pas la faire sortir de la foi et de l'islam. Et ça c'est la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc celui qui ordonne, ou qui fait un péché, ou qui vend quelque chose de haram, ou qui ouvre une banque avec riba, ou bien qui vend de l'alcool dans son magasin, ou qui vend de la loterie, tu ne peux pas dire qu'il est kafir. Sauf s'il dit avec sa bouche, ça c'est halal, et c'est pas interdit. Et qu'il dit, je crois que c'est permis de le faire. Là, il est kafir. Parce qu'il a déclaré ça halal. Et tu lui as montré les preuves, et il rejette les preuves. Il ne veut pas savoir. Il dit, halal, ce qui est haram, ça c'est kufr. C'est pas pareil. Mais tu peux pas, par rapport au fait que quelqu'un fait l'action, tu le déclares kafir à cause de son action, ça c'est pas quelque chose de permis. Bien entendu, si quelqu'un, par exemple, insulte Allah ou insulte le messager, ou prend le mushaf et le jette dans la poubelle, ou des choses comme ça, ça c'est relié directement avec le cœur. Quelqu'un ne peut pas faire ça, sauf s'il a le kufr dans son cœur, celui-là il est kafir. Il insulte le prophète, il insulte Allah, il n'y a pas de discussion à ce sujet-là. Mais c'est pas toutes les actions qui rentrent dans cette catégorie-là. C'est pas toutes ces actions-là qui sont directement reliées avec le cœur, et il y en a qui ne font pas cette distinction-là, et donc ils veulent faire sortir de la foi des gens qui sont des musulmans, et ils veulent les déclarer kuffar sans preuve. Et c'est ça le danger du takfir, c'est ça le danger des groupes d'extrémisme. Hein? Donc il faut faire attention à ces gens-là. Et la même chose pour le tabdir, la même chose pour le fait de déclarer les gens comme étant des mubtadi'a. Bon, on va expliquer tous ces détails-là, inshallah. Donc, pour la question de takfir, on va y revenir aussi. Le cheikh il dit, « Zahiratu al-tabdi' al-bid'a arrafaha ahl-sunnati wal-jama'a bi-annaha ma uhditha fi-d-din mimma laysa minhu. Faman ja'a bi-ibadatin yataqarrabu biha ilallah, wa hiya lam takun fi-dinillah, wa laysa laha dalilun min al-kitabi aw min al-sunnah, fahadihi hiya al-bid'a. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله من العبادات فلا يزيدون شيئا لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأسلم وجهه لله يعني جاء بالتوحيد الخالص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بما جاء به ولم يزد على ذلك أما الذي زاد في العبادة شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع وليس محسنا لأن تفسير شهادة لأن تفسير الشهادة أن محمدا رسول الله أي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله كما قال الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الشيخ الذي en ce qui concerne le phénomène du tabdi' de déclarer les gens mubtadi'a sans preuve alors le cheikh il dit ça c'est par exemple que il faut comprendre premièrement qu'est-ce que c'est la bid'ah parce qu'il y a beaucoup de gens comprennent même pas le mot lui-même, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique. Et donc, quand tu dis à quelqu'un « bid'a », eux ils disent « mais comment ça bid'a ?» Ils comprennent pas parce qu'ils savent même pas ce que ça veut dire. Donc, selon Ahl Sunnati wal Jama'a, la bid'a c'est quoi? C'est qu'est-ce qui a été inventé de la religion, dans la religion, puis ça n'en fait pas partie. C'est-à-dire, ça n'en fait pas partie parce qu'il n'y a pas de référence dans le Coran ou dans la Sunna pour cette action-là. Et juste pour ajouter un peu plus de clarification, c'est que les ulama ils ont clarifié qu'il y a deux catégories de bid'a. Il y a al-bid'a al-asliya et al-bid'a al-idafiya. Et souvent c'est ça ce qui cause de la confusion entre les gens. Premièrement, les bid'a c'est juste dans les questions d'adoration et de religion, des choses qui font partie de qu'est-ce qui nous rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la manière d'adorer Allah, et dans la croyance islamique, et dans les règles islamiques. En ce qui concerne les choses en dehors de ça, comme les choses de la dunya, de la vie de tous les jours, comme les moyens technologiques qu'on utilise, ça, c'est des innovations au sens linguistique, et ça ne concerne pas les bid'ahs dont on est en train de parler. On est en train de parler des innovations spécifiquement reliées à la religion. Et donc, quand on dit al-bid'ah al-asliya, la bid'ah qui est fondamentalement et à la base, elle est une innovation dans la religion, c'est qu'il n'y a aucune référence dans les textes du Coran et de la Sunna à son sujet. Donc, c'est quelque chose qui est inventé. Ça ne fait pas partie de l'islam. Mais il y a d'autres catégories de bid'ah qu'on appelle bid'ah al-idafiya. Et la bid'ah qu'on appelle idafiya, c'est à la base, c'est une action qui fait partie de l'islam, qui fait partie de la Sunna. Sauf qu'on a rajouté à cette adoration-là une manière, une description de l'affaire, ou bien un moment pour l'affaire, ou bien un lieu spécifique pour l'affaire, ou bien un nombre spécifique pour l'affaire, et ces ajouts-là n'ont aucune référence et aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ça peut être une bid'a qui n'a aucune référence du tout dans l'islam, comme par exemple le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il n'y a aucune preuve de ça dans le Coran ou dans la Sunna, ni dans l'exemple des Sahaba ou des Tabi'in ou de ceux qui les ont suivis par la suite, ni dans l'exemple des quatre imams des Madaliq, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, rahimahumullah, ou même dans les imams de Hadith comme Al-Bukhari, Muslim, et Abu Daoud, et An-Nasa'i, et Tirmidhi, et Ibn Majah, et les autres ulama de Hadith, et les savants qui sont venus après et avant cela. Aucun d'entre eux n'ont jamais célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont jamais connu cette chose-là puisque ça n'existait pas à leur époque. C'est quelque chose qui a été inventé plus tard par des gens qui faisaient partie des sectes comme les Qaramita et les Ismailiyya. Donc des sectes, il y en a d'hérésie, c'est des gens qui sont en dehors de l'islam, hein, pendant la période des Fatimides en Égypte. Donc, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça c'est une bid'a, à la base elle est une bid'a parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Et ceux qui pratiquent ça aujourd'hui, la plupart c'est des gens qui sont des gens de turq soufia, ou bien qui suivent aveuglément, ou de façon traditionnelle, ces innovations-là, sans même savoir d'où est-ce que ça vient. Ils font juste suivre aveuglément ce que leurs chouyoukh leur ont montré. Puis, comme je disais, la bid'a al-idafiya, ceux par exemple qui disent, oh, nous on va faire le zikr, mais on va faire notre zikr d'une façon particulière, hein, comme par exemple les Tijaniya, ils vont se mettre en rond, ils vont mettre un drap blanc au milieu, puis ils vont commencer à faire leur zikr d'une manière spécifique qui n'a aucune référence ni dans le Coran ni dans la Sunna. Et dans leur tariqa, ils ont une prière qu'ils appellent Salatul Fatih. Et ils disent que si tu fais ça, tu vas avoir 6000 fois la lecture du Coran, ou que c'est mieux que 6000 fois la lecture du Coran. Et ça, bien entendu, c'est de l'égarement. Hein. C'est clairement de l'égarement. Quelqu'un n'a pas le droit de dire ça, et de croire que, aussi, il y a un zikr qu'ils font, par exemple, c'est devant, ils vont se limiter à dire, par exemple, hu, 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 ou bien de dire, la, ila, la, ila, pendant un certain nombre de temps, ou des choses de ce genre. Donc, ils ne vont pas suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de faire le zikr. Il y a d'autres turuq qui vont aussi faire des mouvements, hein, ils vont faire, par exemple, qu'est-ce qu'ils appellent al-hadra, hein, ils croient que, à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaît, il vient parmi eux, et il commence à faire de la musique avec un tambour, et puis ils se mettent tous en rond, et puis ils commencent tous à s'incliner comme ça, devant, derrière, et ils suivent le rythme du tambour, et puis ils vont de plus en plus vite comme ça, en criant des noms d'Allah tous ensemble, sur le son de la musique. Hein. Par exemple, ils vont dire « Hey !» Hey, hey, ou bien ya hey, ya hey, ya hey, et puis vous continuez comme ça ensemble, et ils chantent des chansons. J'en ai vu comme ça sur des sites internet, ils montraient leur pratique comme ça, et tu vois que ça n'a rien à voir avec la sunna, il n'y a aucune référence pour ça. Il y en a qui tournent en rond, hein. Il y a un imam à Montréal qui est d'origine malienne, puis c'est un soufi de la tariqa Naqshbandiya. Ils portent leur turban avec leur habit vert, et puis lui, qu'est-ce qu'il fait avec ses fidèles dans leur petit centre, c'est qu'il tourne en rond, hein, ils mettent leurs mains comme ça d'une certaine position, puis ils commencent à tourner en rond comme ça pendant des heures au rythme de, du tambour, et puis il y a les hommes et les femmes ensemble, et puis ils se tournent comme ça, et ils disent que ça c'est du zikr, et ils, ces gens-là se disent sunnites. Donc vous voyez que ça, ça n'a rien à voir ni avec la sunna, ni avec le Coran, ni avec l'islam. Ils font des bid'a, c'est-à-dire le zikr, c'est quelque chose de bon, il n'y a personne qui va nier le zikr. Mais est-ce que c'est ça le zikr? Est-ce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Et est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Il y a aussi des livres que vous allez trouver chez les soufis aussi. Ils vont vous dire, par exemple, si vous voulez avoir un enfant, si vous voulez avoir quelque chose, après la prière de Fajr, vous devez lire le nom de Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, Ar-Razzaq, pendant 100 fois, et vous devez boire de l'eau, et vous devez faire telle ou telle telle chose pendant 40 vendredi, et puis après vous allez avoir telle telle chose. Hein? Il y a plein de trucs comme ça que les soufis racontent, et si tu leur dis où est-ce que tu as trouvé ça, montre-moi la preuve dans le Coran ou dans la Sunna de ça, ils vont dire ben on n'a pas de preuve, c'est pas soi-disant dans un rêve, ou bien d'un autre moyen, soi-disant ils ont entendu ça ou ils ont reçu ça par un rêve ou d'une autre manière, et c'est pas sur les rêves qu'on se base pour comprendre notre religion, c'est sur le Coran et sur la Sunna. Il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La religion elle est déjà complète. Donc ça, ça fait partie des exemples de qu'est-ce qu'on appelle bid'a et idafiyya. Soit qu'ils le font d'une façon qui n'est pas selon la sunna, ou bien qu'ils le font dans un lieu spécifique et ils disent il faut le faire à cet endroit-là, ou bien il faut le faire à ce moment-là en particulier. Comme il y a des gens qui prennent l'habitude de faire quelque chose à chaque fois, tous les jours, après chaque prière, ils lèvent les mains, puis ils font un doua, et puis après quand ils ont fini, ils passent les mains sur le visage. Et ils pensent que ça, ça fait partie de la sunna. Et ça fait pas partie de la sunna. Celui qui pense que ça fait partie de la sunna, qu'il cherche la preuve. Il n'y a pas de preuve authentique à ce sujet-là. Donc, il faut bien vérifier les actions qu'on fait, parce que les gens prennent l'habitude de faire des choses, et surtout quand toute une population, ou tout un pays, ou tout un continent, on trouve des gens de ce pays-là qui font toute la même chose, les gens s'imaginent que ça y est, il ne peut pas y avoir de doute. Pourtant, notre religion n'est pas basée sur la pratique ou les pratiques, qu'est-ce que les gens pratiquent comme religion, elle est basée sur les preuves et les textes. Parce que si la religion était basée sur la pratique, donc ça voudrait dire qu'on devrait justifier qu'est-ce que tous les musulmans font au nom de l'islam. Et ceux qui mettent des bombes et qui font du terrorisme au nom de l'islam, on voit que dans les pays de Kouf, ils mettent ça dans les médias, ils disent « Regardez les musulmans, ils tuent, ils mettent des bombes et ils font du terrorisme. » Nous, on leur dit à ces gens-là, ça c'est pas l'islam, ça c'est qu'est-ce que ces gens-là ont fait, c'est eux qui sont les responsables, mais il ne faut pas attribuer ça à l'islam et à la religion. De la même manière que quand un chrétien parmi eux fait un attentat terroriste, il n'y a personne à la télévision chez eux qui va dire « Le christianisme appelle au terrorisme ». Mais quand c'est l'islam, ils font cet amalgame-là, parce que c'est des gens malhonnêtes. Hein? Donc nous, on fait la distinction entre ce que les gens pratiquent dans les pays musulmans et ce qui est enseigné dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna, et qu'est-ce qui a été amené par les salaf salih. C'est ça notre religion et c'est ça notre islam. D'accord? Donc il faut faire la distinction entre la Sunna et la bid'a. Et le cheikh, il dit donc que la bid'a, c'est qu'est-ce que les gens font qui n'est pas de la religion. Donc si quelqu'un vient et il fait quelque chose et il prétend qu'il peut se rapprocher à Allah par cette action-là, et qu'elle ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle n'a pas de preuve du Coran ou de la Sunna, alors dans ce cas-là on dit c'est une bid'a. Et il n'y a pas de bonne bid'a, comme certains qui, parmi les gens de bid'a, ils viennent et disent « Ah c'est une bid'a, d'accord, on est d'accord avec vous. Si vous voulez dire que c'est une bid'a, on va dire que c'est une bid'a. » Sauf que c'est une bid'a qui est bonne. Nous on leur dit, toutes les innovations dans la religion sont mauvaises. Il n'y a pas de bonnes innovations dans la religion. Et ceux qui utilisent l'argument qu'il y a des bonnes bid'a, c'est pour essayer de justifier qu'il y a des... justifier les bid'a qu'ils font. Et si vous voulez savoir qui est l'innovateur, c'est qui les mubtadi'a, c'est ceux qui essaient de justifier les innovations et les bid'a qu'ils font, en disant qu'il y en a qui sont bonnes. Maintenant, quand tu regardes les hadiths, tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit qu'il y a des bonnes bid'a. Hein? Dans un hadith, il a dit « Man sanna fil islam sunnatan hasana, fa kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ولا ينقص من يعني أجور من فعله شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة. bon يعني qui base il base sur ce hadith là, celui qui fait une bonne action dans l'islam, alors il aura la récompense de cette bonne action là et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans le fait de faire cette bonne action là, sans que ça diminue rien de la bonne action de des gens qui l'ont suivi. Donc ce hadith là, ça nous indique que le fait de faire quelque chose qui fait partie de l'islam, et dans le contexte du hadith en question, on a vu que c'était un homme qui s'est élevé pour donner une sadaqa en premier, et tous les autres se sont levés après lui pour faire la même chose. Donc après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une bonne action dans l'islam, il aura la bonne récompense et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans le bien. Donc c'est quelque chose, c'est si tu fais quelque chose qui fait partie de l'islam et qui a des preuves dans l'islam et qui fait partie des adorations. Hein? Et celui qui fait une mauvaise action, celui qui fait un péché ou quelque chose de haram, ou qui fait une bid'ah, et que les gens le suivent par la suite, eh bien il aura non seulement le péché de cette mauvaise action-là, mais il aura le péché de tous ceux qui l'ont imité et qui l'ont suivi dans ce mal-là. Donc ça c'est pour nous faire comprendre que il n'y a pas de bonne bid'a. Toutes les bid'a sont mauvaises. Kullu bid'atin dalala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui fait une action et qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Donc l'obligation pour le musulman, c'est de se limiter à ce que Allah et son messager ont légiféré comme adoration et de ne rien ajouter de ce que Allah et son messager n'ont pas légiféré. Et il mentionne le verset 112 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, celui qui a soumis son visage à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est muhsin, hein, qui est bienfaisant, qui fait son adoration avec ihsan, alors il aura la récompense pour son action auprès de son Seigneur et ils n'auront nulle crainte et ils ne seront pas attristés. Le cheikh explique que de soumettre son visage à Allah, c'est-à-dire de le soumettre en appliquant le tawhid avec sincérité et avec pureté, et d'être muhsin, c'est-à-dire de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam en appliquant l'adoration telle qu'il l'a amenée sans rien ajouter. Mais celui qui veut inventer ou ajouter des adorations que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré, alors celui-là c'est un mubtadi' et c'est pas quelqu'un qui fait du bien. Des fois les gens ils prennent l'habitude de voir des gens qui font des innovations, qui appellent à des innovations, et donc il faut faire la distinction. Il faut bien comprendre que souvent derrière ces innovations là il y a d'autres choses plus graves qui sont cachées, et des fois en apparence on voit juste ce petit exemple là comme le maoulid. Il y en a qui disent ah c'est juste de se réjouir puis de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que derrière ça il y a plein d'autres choses qui sont haram reliées à ça aussi, et des exagérations au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont chantées dans plusieurs chansons et poèmes qui parfois même décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des attributs divins et dans lesquels on lui demande le pardon ou des choses de ce genre, et ça il n'y a pas de doute que c'est des formes d'idolâtrie et de shirk aussi. Donc le cheikh il dit que l'interprétation ou l'explication du témoignage de Muhammad et le messager d'Allah, c'est de lui obéir dans ce qu'il ordonne, de croire en ce qu'il nous informe, de s'écarter de ce qu'il nous a interdit et de ce qu'il a blâmé, et de n'adorer Allah que par la façon qu'il nous a enseigné et qu'il nous a légiféré. Et donc ça c'est ce qu'implique le témoignage de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7 dans Surat al-Hashr, ce que le messager vous donne prenez-le, et ce qu'il vous interdit de faire abstenez-vous-en. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et vous qui avez cru, ne devancez pas, ne prenez pas les devants devant Allah et son messager, et craignez Allah, et Allah est audient et omniscient. إذن المبتدع هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه بحيث يأتي بدين لم يدل عليه دليل من الكتاب القرآن أو من السنة. وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد، لأن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. والمقصود بالمجتهدين هم من تأهلوا للاجتهاد وتوفرت فيهم شروطه المعروفة وكذلك إذا أخطأ المخطئ عن تأويل لأن التأويل شبهة تدرأ عنه الحكم بأنه مبتدع ولأنه ظن أن تأويله سائغ أو قلد من ظن أنه على حق فهذا يقال في حقه أنه أخطأ أو خالف ولا يقال إنه مبتدع Donc le cheikh, il explique ici que le mubtadi', l'innovateur, c'est celui qui a inventé donc dans la religion ce qui n'en fait pas partie. C'est-à-dire qu'il a pratiqué une religion au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve du Coran ou de la Sunna. Et le mubtadi', on ne va pas dire que quelqu'un qui fait par exemple, qui contredit la Sunna ou qui fait une erreur, En se basant sur une ijtihad, on ne va pas dire à son sujet qu'il est muqtadir. C'est pour ça que parmi les fondements et les principes de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il y a une règle qui est très importante au sujet du tabdir, au sujet du takfir et au sujet du tafsir. C'est que les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils ont spécifié que ce n'est pas toute personne qui dit ou qui fait quelque chose de kufr qui est automatiquement kafir. Et c'est pas toute personne qui dit ou qui fait quelque chose de shirk qui est automatiquement mushrik. Et c'est pas toute personne qui dit ou qui fait quelque chose de bid'a qui est automatiquement mubtadi'. Parce qu'il y a des règles et des conditions au sujet desquelles on doit tenir compte avant de pouvoir appliquer le verdict en question sur un individu en particulier. D'accord? Donc, quelqu'un peut avoir commis une bid'a ou un acte de shirk ou un acte de kufr par ignorance, ou bien qu'il a eu une shubha, ou bien qu'il a mal compris quelque chose, ou des choses de ce genre. Donc, les ulama, ils savent que pour appliquer un verdict sur un individu en particulier, il y a des règles et des conditions dont on doit tenir compte, et il y a des fois des empêchements qu'il faut éliminer avant de pouvoir appliquer le verdict sur un individu. Et ce n'est pas quelque chose d'aussi facile qu'on peut se l'imaginer. Et c'est pour ça que les ulama d'Ahl al-Sunnah détestent prononcer de takfir ou le tafdir ou le tafsir des individus. Et quand ils font le takfir ou le tafsir ou le tafdir, ils le font en général, de manière générale, comme par exemple en parlant de certaines règles générales. Comme ils vont dire par exemple, toute personne qui rend halal qui est haram est kafir. Ça, c'est une règle générale. Maintenant, pour appliquer cette règle à un individu en particulier, c'est pas automatiquement. Il faut vérifier, il faut prendre son temps pour analyser les choses, pour être certain que ce verdict-là s'applique à cet individu-là en particulier, et pour voir que les conditions de l'application de ce verdict-là sont présentes pour l'appliquer sur cet individu-là, et que les empêchements sont éliminés. D'accord ? Et ça, c'est l'erreur de beaucoup d'entre les jeunes qui se basent sur des livres ou qui se basent sur des cassettes ou des enseignements qu'ils ont entendus et qui pensent qu'ils ont atteint un degré de compréhension et de connaissance de la religion et qui s'imaginent qu'ils sont capables d'appliquer ces verdicts-là sur les individus. Et ceux-là sont en réalité des ignorants. Et la façon dont ils appliquent l'islam, c'est comparable un peu à quelqu'un qui a appris la médecine en lisant des livres et qui veut essayer de faire une chirurgie. Ou de faire une chirurgie à cœur ouvert, il pense qu'en lisant les livres de médecine, il est capable de soigner les malades. Et il commence à tuer des gens. Hein? Donc ça, c'est la comparaison, yani, de ces gens-là. Ils pensent qu'ils ont lu quelques livres sur l'islam, et en plus traduit en français, ou ils ont écouté quelques conférences sur l'islam, en français ou en arabe, ou en une autre langue, et ils pensent que ça y est, ils sont capables de dire un tel est kafir, un tel est mushrik, un tel est mubtadi', et ils pensent que ça y est, ils peuvent s'y adonner, et que c'est comme un passe-temps pour eux maintenant, ils ont atteint l'illumination, ils pensent qu'ils comprennent tout, et ils savent mieux que les savants même de l'islam, parce qu'ils commencent même à dire un tel savant est kafir, et un tel dirigeant est kafir, un tel... Yani. Donc si quelqu'un est capable de déclarer les savants de l'islam kuffar, alors ça veut dire qu'il a, en principe, ça veut dire qu'il aurait plus de science qu'eux. Et ça c'est la même attitude que les khawarij à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui étaient ignorants de l'islam et qui pensaient qu'ils comprenaient mieux le Coran et la sunna que les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. à un tel point qu'ils ont commencé à déclarer les Sahaba kuffar et à les égorger, et à penser qu'en les égorgeant, ils se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils étaient meilleurs que les Sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Sahaba, justement pour les avertir au sujet des Khawarij, il leur a dit, quand vous allez les voir prier, vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière, parce que c'est des extrémistes dans la prière. Et quand vous les voyez jeûner, vous allez mépriser votre jeûne. Et quand vous allez les entendre lire le Coran toute la nuit, vous allez mépriser votre lecture du Coran à vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils lisent le Coran mais ça ne dépasse pas leur gorge. Ça veut dire que ça ne rentre pas dans leur cœur, parce qu'ils n'ont aucune compréhension de ce qu'ils lisent. Ils font juste lire les lettres. Ils ne comprennent rien de ce que ça signifie et ils ne savent pas les règles qui sont derrière ces versets-là et comment les comprendre et comment les appliquer. Ils ne savent pas ça. Tout ce qu'ils savent, c'est ils ont lu un verset, puis ils ont dit ça, c'est notre compréhension, et puis tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ce sont des koufars, et tous ceux qui font des grands péchés sont des koufars, et vous, vous avez fait tel ou tel ou tel péché, donc vous êtes des koufars et on va vous tuer, on va prendre vos biens. Et c'est ça ce qu'ils font ces gens-là. Donc ça c'est le danger de l'ignorance, et le danger des passions, et de l'égarement de ces khawarij aujourd'hui, qui suivent les voies d'égarement et de la passion, qui pensent qu'ils sont même plus savants que les savants de l'islam. Donc ça c'est un très grave danger, c'est un très grand danger. Et le cheikh il dit que donc il faut faire attention, il y a des gens parmi les savants de l'islam parfois, vous allez lire dans leurs livres, hein, qui ont fait des erreurs dans leurs livres, et il y en a des jeunes maintenant, ils lisent ces livres-là, ils trouvent des erreurs, ils disent « Ah ça y est, lui c'est un mubtadi'. Il a écrit un livre, il s'est trompé dans telle ou telle question, ah c'est un mubtadi'. » Alors tout de suite il se précipite. Sauf que le cheikh il explique, il dit non. Le savant qui a été sincère, et qu'on connaît sa méthodologie. En général, sa méthodologie c'est de retourner au Coran, retourner à la Sunna et de suivre la voie des salafs. Sauf que dans certains de ses jugements, il s'est trompé, il a fait des erreurs. Hein? Alors le cheikh il explique que dans des cas comme ça, quand il a la bonne réponse et quand il fait une bonne ijtihad, il a deux récompenses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui fait une ijtihad et qu'il a la bonne réponse, il a atteint la vérité, il a deux récompenses. S'il se trompe, il en a juste une au lieu de deux. Il a la récompense pour son effort et il est excusé pour son erreur et il n'est pas puni. Hein? Ça c'est pour le mujtahid, le savant mujtahid. Mais le cheikh il spécifie par la suite, il dit, qui est-ce qu'on veut dire par les mujtahidines? C'est qui les mujtahidines? C'est ceux qui ont l'aptitude et la connaissance suffisante pour être capable justement de comprendre et d'analyser les textes. C'est pas n'importe quel ignorant ou n'importe quel individu qui va se permettre d'écrire et de dire des choses qui sont contraires au Coran et contraires à la Sunna, et puis par la suite qui font plein d'erreurs. Déjà leur manhaj et leur méthodologie à la base elle est contraire au Coran et contraire à la Sunna. Et donc, on n'est pas étonné quand ils se trompent, puisque c'est ça leur méthodologie. Quand ils ont une bonne réponse, c'est là qu'on est surpris. Parce qu'on voit que, contrairement à la règle, ils ont réussi à tomber sur la vérité. Mais c'est pas parce qu'ils ont suivi une bonne méthodologie qu'ils ont trouvé la vérité, c'est par coïncidence, ou bien c'est, par chance, comme ça, ils sont tombés sur la vérité. Parce que, à la base, leur méthodologie, elle est fausse, elle est incorrecte. Donc, le cheikh dit, l'ijtihad, c'est ceux qui ont les compétences et les connaissances et les outils nécessaires pour le faire. Ils ont les fondements et les principes et les règles. Et lorsqu'ils font un effort de jugement et d'interprétation et qu'ils se trompent, alors dans ce cas-là, ils sont excusés. Ou bien, si par exemple, ils ont fait un ta'wil, une interprétation qui est basée sur une mauvaise compréhension, qu'ils se sont trompés, alors dans ce cas-là, on ne va pas dire que c'est un mubtadi, puisqu'il s'est trompé, il n'a pas fait exprès, ce n'est pas son intention, donc dans ce cas-là, il est excusé. Ou il a cru que c'était permis dans cette chose-là de faire cette interprétation-là. Il a cru que c'était la vérité, par erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الله سبحانه وتعالى va passer par-dessus les l'erreur de ma Ummah, de même que ce qu'ils ont fait par oubli, ce qu'ils n'ont pas fait par oubli, ou les erreurs qu'ils ont fait par oubli, ou bien ce à quoi ils ont été contraints de faire. Donc, dans ces choses-là, ils sont excusés pour ces erreurs-là. D'accord? Donc, il faut savoir que c'est pas toute personne qui commet ou qui fait une bid'a qui est automatiquement un mubtadi'. Puis en même temps, il faut faire la distinction aussi entre ceux qui ne sont pas des mujtahidines et qui n'ont pas de science et qui parlent de l'islam sans connaissance et qui disent des choses qui sont contraires au manhaj al-sunnati wal-jama'a et qui appellent à la bid'a, ceux-là ne sont pas excusés parce qu'ils ne font pas partie des mujtahidines. Le cheikh il dit « ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا بل كانوا إخوة متحابين ومتناصرين لأنهم أمة واحدة مع أنهم يختلفون في بعض الأمور والاجتهادات التي سمح الشرع بالاجتهاد فيها. الشيخ الزي et la preuve de ça c'est que la preuve que la personne qui fait des erreurs par ijtihad, il a fait un ijtihad puis qu'il s'est trompé et qu'on ne doit pas le déclarer muqtadir, la preuve qu'on ne doit pas le déclarer muqtadir à cause d'une erreur qu'il a faite dans son ijtihad, c'est l'exemple des sahaba qui eux-mêmes, entre eux, faisaient des ijtihad et qui divergeaient parfois les uns avec les autres dans certaines questions. Aucun d'entre eux n'a déclaré l'autre muqtadir ou n'a a décidé de boycotter l'autre ou de cesser de lui dire le salam ou de ne pas lui parler à cause de cette erreur-là. Au contraire, ils étaient des frères, ils s'aimaient dans la vérité et ils venaient les uns au secours des autres dans la vérité et ils étaient une seule umma, malgré que parfois ils divergeaient dans certaines questions d'ijtihad dans lesquelles ils avaient le droit de faire des ijtihad et donc malgré ça ils s'excusaient dans les divergences qu'ils avaient. Mais il faut bien comprendre une chose ici, c'est que ces divergences-là dont on est en train de parler entre les sahaba, c'était pas des divergences dans les questions d'aqida et dans les fondements de la sunna, c'était des divergences dans les questions d'ijtihad, c'est-à-dire dans des divergences de compréhension entre les sahaba dans les principes et les applications, mais pas dans les fondements de la aqida et dans les fondements de la sunna, c'est-à-dire qu'ils ne divergeaient pas dans les fondements de la religion, mais ils divergeaient dans divergence de compréhension ou d'analyse des textes. Et donc ça c'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne font pas la différence entre des gens qui suivent des sectes d'égarement et des idéologies qui sont contraires aux fondements de l'islam et qui veulent appliquer avec eux les mêmes règles que les sahaba entre eux lorsqu'ils divergeaient dans une ijtihad. Et comme les ikhwan en fait, c'est ça les ikhwan musulmans, c'est ça leur problème, quand ils appliquent leurs règles, quand ils disent par exemple نتعاون مع بعض فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Quand ils disent on coopère les uns les autres et on travaille ensemble dans les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse mutuellement si on a des divergences. On coopère sur les choses sur lesquelles on est d'accord, puis si on a des divergences, on s'excuse les uns les autres. Si c'était dans les questions d'ijtihad seulement, ok, mais on ne peut pas appliquer cette règle-là dans les questions de aqida, dans les questions de manhaj et des fondements de la sunna. Ça c'est pas possible. Les gens qui appellent au shirk, ou qui font du shirk, ou qui appellent à des formes de kufr, ou qui contredisent des principes et des fondements du tawhid, et qui appellent à l'innovation et à la bid'ah et à des choses contraires à la sunna, ces gens-là, on ne peut pas dire on va s'excuser dans nos erreurs, ou de dire les chrétiens et les juifs sont nos frères, on va travailler sur qu'est-ce qu'on est d'accord, puis on va s'excuser sur nos erreurs. Ces gens-là, ils appellent à adorer d'autres que Allah, ils appellent à faire le shirk. Donc, on n'a rien en commun avec eux dans les fondements de notre religion, on ne peut pas s'unir avec eux. Et on ne peut pas dire qu'on va s'excuser mutuellement sur ces erreurs-là, puisque ces erreurs-là sont dans les fondements et dans la base de la religion. D'accord? Donc beaucoup de gens, ils ne font pas la distinction entre ces choses-là, puis ils pensent que peu importe la divergence, peu importe l'erreur, peu importe la contradiction de l'individu, on l'excuse, et c'est pas grave. Dans ce cas-là, alors il n'y a plus de religion, il n'y a plus de limite. Hein? Et ça, c'est une grave erreur et une grave incompréhension. Et alhamdulillah, les savants de l'islam, ils ont clarifié ces choses-là. Ils ont réfuté cette parole des Ikhwan et ils ont expliqué les détails. Et même moi-même, j'ai fait un dars sur un livre qui a été écrit pour réfuter ce slogan des Ikhwan. Un livre qui a été écrit par un chef qui s'appelle Hamad ibn Uthman, Hamad ibn Ibrahim al-Uthman. Le livre s'appelle Zajr al-Mutahawin. في بنقد قاعدة المعذرة والتعاون et j'ai fait je pense si je me trompe pas 30 cours sur ce livre là qui est dans le site Salafi de Montréal. Donc c'est pour expliquer que cette qaïda, cette règle qu'ils suivent, elle est en contradiction avec la voie des salaf salih, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Et donc, juger, on doit juger selon ce que Allah a révélé dans les questions d'aqidah, en principe, dans les questions de croyance et dans les fondements de la sunna. Il faut juger selon ces choses-là. Après, le cheikh, il dit, « Ma'rifatu qadr al-ulama wa makanatihim. Fal-ulama lahum makanatuhum wa qadruhum. ولذلك فإن ظاهرة التبديع إنما جاءت على لسان بعض الجهال أو المبتدئين في طلب العلم لأنهم يعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا بل أظهروا هذه المقالة وصار بعضهم يبذع بعضا فتعاذوا وتقاطعوا وتدابروا ولم يقتصر الأمر على ذلك فيما بينهم بل تناولوا العلماء السابقين فنجد هؤلاء الجهال يقولون ابن حجر مبتدع النووي مبتدع أبو حنيفة مبتدع وغيرهم من كبار الأئمة وذلك من أجل أخطاء في الاجتهاد لا تقتضي أن نبدعهم لأنها أخطاء جزئية وهؤلاء العلماء لهم فضل في الإسلام وإمامة ومكانة وقد قدموا للإسلام والمسلمين الكثير من الأشياء النافعة ومؤلفاتهم وكتبهم ينتفع بها المسلمون في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو قدر أن في كلام بعضهم شيئا من الخطأ فما لهم من مكانة وفضل وعلم في الإسلام وخدمة السنة النبوية تغطي هذه الجزئية الصغيرة فيجب أن نعرف قدر علمائنا سلفا وخلفا وأن نترحم عليهم وأن ندعو الله لهم كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الشيخ يقول il faut reconnaître le statut et le respect qu'on doit à nos ulama. Le cheikh il dit, les ulama ils ont leur respect et ils ont leur niveau et donc il faut les respecter. Et on voit que dans le phénomène de tabdir aujourd'hui, c'est venu de la part de certains ignorants ou de certains débutants dans la quête de la science. Et ils considèrent, parce que ces jeunes-là qui commencent dans la science ou ces ignorants-là, il considère que la personne qui s'est trompée dans la compréhension de quelque chose ou qui a suivi aveuglément un innovateur, que c'est un innovateur lui-même. Et donc ils ont appliqué cette chose-là, ils ont appliqué cette règle-là. Quand ils voient quelqu'un qui suit un innovateur de façon aveugle, c'est des gens qui suivent des innovateurs mais ils ne savent même pas que qu'est-ce qu'ils suivent sont des innovations et ils commencent à les déclarer innovateurs et ils ne vont même pas vérifier est-ce que la personne elle a une connaissance ou elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Et il déclare tout le monde mubtadi' sans faire aucune vérification. Donc c'est rendu à un tel point qu'ils commencent même ces jeunes-là à se déclarer mubtadi'a les uns les autres. Et ils commencent à se détester les uns les autres et à se couper les uns les autres et à se détester. Ils se font la guerre les uns les autres. Et ça ne s'arrête pas là. Ils vont même commencer à déclarer certains des savants qui ont vécu dans le passé, ils les déclarent eux aussi comme étant des innovateurs et des moubtadi'ins. Et donc on retrouve certains de ces ignorants-là qui commencent à dire par exemple qu'un tel savant comme Ibn Hajar, ils disent « Ah lui c'est un innovateur » ou « Al-Nawawi » ils disent « Ah lui c'est un innovateur » ou bien « Abu Hanifa » « Ah c'est un innovateur » et d'autres également parmi les grands savants de l'islam. Et donc ça c'est parce que ils ont trouvé qu'ils ont certaines erreurs dans des formes d'ijtihad qu'ils ont fait, qui n'impliquent pas du tout qu'on les déclare comme étant des innovateurs, parce que ce sont des erreurs qu'ils ont faites dans certaines questions seulement. C'est-à-dire la base de ces savants-là dans leur manhaj, c'est la voie du Coran et de la Sunna. C'est de retourner au Coran et à la Sunna et de juger selon la voie des salaf salih et le manhaj des salaf salih. Sauf que dans certaines questions et dans certains éléments de leur compréhension, de leur application de ces règles islamiques, ils ont commis des erreurs. Le cheikh il dit, toutefois, ça reste que ce sont des ulama et ils ont des mérites et ils ont un statut yani d'imam et donc de respect dans la religion. Ils ont fait beaucoup de bien pour l'islam et les musulmans. Et ils ont amené beaucoup de choses bénéfiques. Et leurs livres et leurs écrits sont là, et les musulmans continuent jusqu'à aujourd'hui à profiter de leurs écrits. Comme par exemple Fath al-Bari et le Sharh de Sunan, le Sharh de Sahih Muslim par l'imam al-Nawawi. C'est vrai que Ibn Hajar il a fait certaines erreurs dans son Sharh, et de même que l'imam al-Nawawi au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a déformé le sens de certaines de ses attributs à la manière des gens de Bid'a, parmi les Asha'ira. Mais toutefois, dans leur manhaj en général, ce sont des gens qui suivent la voie de Ahlul Hadith et des gens de la Sunna. Donc on ne peut pas les déclarer comme étant des gens de Bid'a. Toutefois, quand on étudie leurs livres, on fait attention et on prend garde à leurs erreurs une fois qu'on les a appris. Et on passe, quand on voit qu'ils font le ta'wil des attributs d'Allah, on passe par-dessus. On sait que ce sont des erreurs, mais dans leur livre il y a d'autres choses qui sont bénéfiques, par exemple quand ils parlent de tafsir ou quand ils parlent des points qui ont rapport avec le fiqh et la compréhension du hadith et de la langue arabe et d'autres aspects de la religion, donc on voit qu'on peut en extraire et en tirer beaucoup de bienfaits, contrairement à des livres écrits par des contemporains et des égarés aujourd'hui comme Saïd Qutb qui remplit son tafsir de ses idées et de ses pensées personnelles et qui interprète le Coran à tort et à travers, de n'importe quelle manière, et qui ne retourne pas aux savants de la religion musulmane, et qui fait le takfir de la Ummah, ou qui explique le Coran, quand il parle de la Sourate al-Ikhlas, il fait une interprétation soufie, mystique, il dit que c'est Wahdatul Wujud, ou c'est de croire que Dieu est dans tout, et que tout est Allah. Ça c'est pas comparable avec Ibn Hajar al-Asqalani. On peut pas comparer ces savants-là avec de tels personnages à l'époque actuelle qui n'avaient même pas passé quelques temps avec les savants de la religion pour essayer d'apprendre leur religion et l'islam. Peut-être qu'ils ont eu des difficultés et des épreuves dans leur vie à cause du fait qu'ils ont justement contredit l'exemple et la voix des prophètes dans la da'wah. Et à cause de ça, ils ont eu des difficultés et des épreuves parce qu'ils ont suivi la voie ou le manhaj des khawarij et les autres mubtadi'a, et ça fait en sorte qu'ils se sont attaqués juste aux dirigeants et à la politique, et donc ils ont eu des répressions contre eux dans leur pays, en Égypte, ou la même chose en Algérie avec le FIS et avec d'autres groupes de bid'a comme le GIA et le groupe, je ne sais pas comment ils appellent, GSPC, les groupes comme ça, les gens qui se disent djihadi, salafi, djihadi. Ça n'existe pas, djihadi, salafi. Parce que déjà ces gens-là sont des takfiriens, c'est des gens qui font le takfir selon la méthode des khawarij. Donc ils ne sont pas salafis, parce que si tu es salafi, tu te désavoues des khawarij. Et tu t'éloignes de la voie des khawarij qui déclarent les musulmans kuffars à cause des péchés. Puis en même temps, le djihad, ce n'est pas selon la méthode que ces gens-là suivent. Le djihad, c'est selon les règles et les principes du Coran et de la Sunna selon les règles de fiqh expliquées par les ulama derrière un dirigeant, derrière une bannière, et c'est le dirigeant qui organise les troupes et les armées et les régiments et qui donne les commandements et qui décide qui on attaque et qui on n'attaque pas et quand est-ce qu'on attaque et quand est-ce qu'on fait ci et ça. C'est l'ordre, l'organisation et la discipline, C'est pas une méthode chaotique que ces gens-là utilisent comme les guérillas des communistes ou bien d'autres approches, comme Che Guevara ou je sais pas quoi. Ça, c'est la méthode des communistes. Nous, on est des musulmans. On suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne suit pas Che Guevara ou d'autres koufars, parmi les koufars d'aujourd'hui. Mais ils ont voulu appliquer les idéologies des koufars, de démocratie, de laïcité, de rébellion, de révolution et d'autres trucs, à l'islam. Et interpréter l'islam à la lumière de ces révolutions des koufars. Et interpréter l'islam à la lumière du socialisme et du communisme et de la laïcité et d'autres idéologies, parmi les idéologies des koufars. Et ça les a amenés à tomber dans toutes ces formes d'extrémisme qu'on voit aujourd'hui. Donc, le cheikh il dit, si on voit que de la part de ces grands savants de l'islam qui ont vécu dans le passé, qu'ils ont fait des erreurs dans des ijtihads, qui n'impliquent pas qu'on les déclare comme étant des mubtadi'ah, alors nous on dit ça c'est des erreurs qu'ils ont fait dans certains aspects de la religion, dans certains jugements qu'ils ont fait, mais il reste qu'ils sont des grands savants et qu'on profite de leur science. Et si on trouve quelques erreurs dans leurs paroles, ça n'enlève pas que, comme on a dit, qu'ils ont ce respect et ce statut et ce mérite et cette science dans l'islam, et qu'ils ont servi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qu'ils ont fait de bien, ça vient recouvrir ces petites erreurs qu'ils ont pu faire dans leur compréhension et dans la religion. Et également, donc, comme on a expliqué, deux personnes peuvent faire la même erreur, un va être excusé, l'autre ne sera pas. Pourquoi ? Parce que un, il a des mérites, et il a fait des choses qui font en sorte que celui-là, on peut excuser cette erreur-là de sa part. Tandis que l'autre, il n'a pas ces mérites-là. Il n'a pas cette science-là et cette connaissance-là, et cette sincérité-là qu'on a vue dans ses actions, donc il ne sera pas excusé. Et aussi quand on parle de l'ijtihad et des erreurs des savants, lorsqu'ils font des ijtihad, ce sont eux, ces savants-là, qui sont excusés dans leur ijtihad. Mais, une fois que tu sais que ce savant-là s'est trompé et que tu es conscient de son erreur, tu ne peux pas utiliser cette erreur-là pour justifier toi de suivre ce qu'il a fait. Par exemple, tu dis, oui, je sais que tel savant, il a eu une position, il a divergé. Et tu sais que qu'est-ce qu'il a dit, c'est incorrect. Et puis tu dis, ah, parce que tu veux suivre tes passions, donc tu essaies de te baser sur cette divergence-là pour essayer de dire, bon, si lui l'a dit, c'est un savant, donc je vais prendre sa position-là. Parce que c'est en accord avec tes passions. Il y a beaucoup de gens qui agissent de cette manière-là. Ils cherchent dans les livres pour trouver les différentes paroles des savants et les divergences. Et s'ils trouvent une de ces divergences-là qui est en accord avec ses passions, ils disent « Ah, il y a un savant avant moi qui l'a dit, donc je vais prendre cette parole-là et puis je vais l'utiliser comme argument. » Et ils disent « Ça, c'est l'ijtihad d'un savant. » Et ils pensent que ça justifie le fait que lui-même décide de suivre cette erreur-là. Non. Lui, ce savant-là, il était excusé pour son erreur, mais toi, tu n'es pas excusé. Si tu le suis et tu es conscient que c'est une erreur, qu'est-ce qu'il a fait? Toi, ton obligation, c'est de suivre la vérité qui vient d'Allah et qui vient du prophète, et ne pas suivre les erreurs des savants. Parce que si tu suis les erreurs des savants, sur chaque question dans l'islam, eh bien, à la fin, tu n'auras plus de religion. Tu vas devenir un zindiq, comme le ulama a dit. Man tatabba'a zallat al-ulama, tazandaqa, devient zindiq, et il rend halal qui est haram à la fin. Et ça, c'est dangereux. Et donc, le cheikh, il dit, donc il faut connaître le respect pour nos ulama et avoir la miséricorde pour eux, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde, et de faire le dua que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans surat al-Hashr, de dire, Rabbana, pour notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. وَهَذِهِ صِفَةُ أَهْلِ صِفَةُ أَهْلِ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَلَمَّسُونَ الْعُيُوبِ وَالْعَثَرَاتِ أَمَّا غَيْرُهُمْ فَيَتَتَبَّعُونَ الْعُيُوبِ وَالْعَثَرَاتِ وَيَنْشُرُونَهَا وَهَذِهِ هِيَ الْبِدْعَةِ. Donc, les gens de la foi, ils ne cherchent pas les défauts, les problèmes des gens, mais tandis que les autres, les gens de la passion et des bid'a, eux, ils cherchent les défauts des savants et ils essaient de les propager, et ça c'est une bid'a. Le cheikh il dit ensuite, anwa'ul bid'a parmi les catégories de bid'a. Il dit al-bid'atu laysat ala haddin sawa. Fa hunaka bid'a mukaffira wa hunaka bid'a dun dhalika. Wa min huna yajib an nazin al-umur bi mawazinha wa nuraji' ahl al-'ilm fi dhalika li'annahum qassamu al-bid'a ila qismayn. Bid'a mukaffira kama qalat al-Jahmiyyah wa ghulat al-firq wa kull al-maqalat allati tukhrij min al-Islam wa bid'a دون ذلك يعد صاحبها من المسلمين ولكن عنده شيء من البدعة ولا نجحف في حق الناس وإذا قلتم فاعدلوا. Donc le cheikh il dit aussi il faut faire une distinction dans les catégories de bid'a, dans les catégories d'innovation, parce que toutes les innovations ne sont pas au même degré. Le cheikh il dit qu'il y a des bid'a qui font sortir quelqu'un de l'islam, qui atteignent le niveau de kufr, de shirk. Tandis qu'il y a d'autres innovations qui ne sont pas mukaffira, c'est-à-dire qui ne font pas sortir de la foi, et donc il faut retourner aux ulama et aux savants pour savoir ces différentes catégories de bid'a, quand est-ce que c'est kufr ou non. Comme par exemple la bid'a des Jahmiyyah, qui nie les attributs et les noms d'Allah en entier. Ceux-là sont des kuffars, et les ulama les ont déclarés kuffars. Ceux qui disent que le Coran est créé. Hein, ça c'est une bid'a, mais elle est mukaffira, elle te fait sortir de l'islam. Tandis qu'il y a d'autres bid'a qui sont interdites en islam, mais que si quelqu'un l'a fait, il ne va pas quitter l'islam. Et c'est pour ça, lorsque des gens posent la question, est-ce qu'on a le droit de prier derrière un musulman ou un imam qui est innovateur, eh bien les ulama d'Ahl-Sunna, ils ont répondu à cette question-là, et ils ont dit, ça dépend de sa bid'a et de la catégorie de bid'a. Si la catégorie de bid'a est une bid'a qui est shirk akbar ou kuf akbar, qui le fait sortir de l'islam, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de prier derrière lui. Mais si sa bid'a n'est pas mukaffira, ne le fait pas sortir de l'islam, alors dans ce cas-là, on a le droit de prier derrière lui. Sauf que bien entendu, c'est préférable de ne pas prier derrière lui et d'aller prier derrière un imam qui est sur la sunna. D'accord? Donc ça, c'est une explication qui a été donnée par les ulama à ce sujet-là. Et donc, il faut distinguer entre ces choses-là. Et il faut être juste. فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Aussi, il faut faire distinction entre un mubtada qui appelle à une innovation, c'est un da'ya, il fait la da'wa à la bid'a, et un mubtada qui est juste un individu qui garde sa bid'a pour lui-même et qui la pratique en privé, qui ne la montre pas aux autres. Il y a une différence entre ces deux-là, et les ulama n'ont pas agi de la même manière envers ces deux-là. Celui qui garde sa bid'a pour lui-même, eh bien, ils ne vont pas avertir contre lui, ils ne vont pas agir de la même manière envers lui, puisqu'il cache sa bid'a, il la garde pour lui-même, il n'appelle pas les gens à cette bid'a. Tandis que celui qui est da'ya à la bid'a, dans ce cas-là, lui, ils ne vont pas lui adresser le salam, ils vont le couper complètement, ils vont pas discuter ou avoir des interactions avec lui. Donc il faut faire la distinction entre les deux. Et ensuite, le cheikh il parle maintenant de la question de takfir. Il dit « وَمِنْ ظَوَاهِرِ أَيْضًا الَّتِي وَمِنَ الظَّوَاهِرِ الَّتِي ظَهَرَتْ التَّكْفِيرِ. » Parmi les choses qui sont apparentes aujourd'hui, qui sont apparues dernièrement, il y a également le takfir. Il dit « est apparu dernièrement ». Ça fait longtemps qu'il y a eu le takfir, depuis que les Khawarij sont apparus. La première secte qui est apparue dans l'islam, c'est la secte des Khawarij, à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Toutefois, la façon dont elle se manifeste aujourd'hui, c'est apparu d'une façon nouvelle, et en particulier parmi les jeunes, et donc c'est pour ça que le cheikh il dit la façon dont c'est apparu. Il dit le kufr, il dit « al-kufr non ala nawain » أحدهما كفر أصلي وهو الكفر الذي لم يدخل صاحبه في الإسلام أصلا كالمشركين والمعطلة وأنواع الكفر من وثنيين وملحدين فهؤلاء كفار أصليون. والنوع الثاني كفر ردة عن الإسلام، كفر ردة وهو الذي يكون صاحبه مسلما ثم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيخرج من الدين فيصير مرتدا فهذا كافر كفر ردة. Donc le cheikh il dit que le kufr est de deux catégories premièrement, deux grandes catégories. Il y a le kufr qui est un kafir asli, c'est quelqu'un qui est à la base mécréant, c'est-à-dire il n'a jamais été musulman, il n'est jamais entré dans l'islam à la base. Et celui-là, comme les mushrikines ou les juifs ou les chrétiens ou les idolâtres, En général, les bouddhistes, les hindous et les autres, ceux-là sont des kuffar asliyoun. Hein, ou les athées également, tous ceux-là sont des kuffar asliyoun. Et il y a une autre catégorie, c'est kufruridda, c'est-à-dire les gens qui sont des apostats. Ils étaient dans l'islam, puis ils ont quitté l'islam, sont allés vers la mécréance, soit parce qu'ils ont fait du shirk, ou qu'ils ont commis un parmi les choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Alors, ils sont devenus des apostats et des kuffars. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Donc ça, c'est très important de distinguer entre les deux déjà en partant. Ensuite, نواقض الإسلام ومعرفة معرفة معرفة محددة عند أهل العلم. Le Cheikh dit qu'il y a des choses que si quelqu'un les fait, ça va annuler leur islam, ça va rendre leur islam vain. Ils auront plus de foi ou plus de religion. Et donc ça, c'est très important de les connaître. Et il y a des gens parfois qui pensent que le takfir, c'est de déclarer, comme par exemple, il y en a qui disent que, ou qui pensent que si quelqu'un dit à propos des juifs et des chrétiens que ce sont des koufars, il dit ah, tu fais le takfir. Ça c'est un takfir obligatoire. C'est-à-dire, de déclarer les koufars asliyoun, et de dire que ce sont des koufars, eux, ça c'est obligatoire de dire qu'ils sont koufars, et t'as pas le droit de douter de leur kufr, puisque ce sont des gens qui n'ont jamais témoigné de l'islam, ils n'ont jamais dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ceux-là, il n'y a pas de doute que ce sont des koufars. Mais ceux au sujet desquels il peut y avoir des erreurs ou des problèmes, c'est de déclarer des gens qui disent « La ilaha illallah » koufar, sans preuve. Là, il y a un problème. Et c'est ceux-là quand on parle du takfir, c'est de ceux-là qu'on parle. De ceux qui disent, à propos de certains musulmans, sans preuve qu'ils sont des koufars, sans se référer aux preuves du Coran et de la Sunna. Donc le chef il dit, il faut connaître les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, et parmi ces choses-là il dit فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ أَوْ دَعَى غَيْرَ اللَّهِ أَوْ إِسْتَغَاثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُرْتَدًا عن الإسلام لأنه فعل الشرك الأكبر وإن كان ينطق بالشهادتين وكذلك من نواقض الإسلام سب الله ورسوله سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بشيء من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن استهزى بالله أو بكتابه أو برسوله أو بسنته فإنه يكفر بذلك جادا أو هازلا لقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فما المقالة التي قالوها؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأنزل الله تكفيرهم في كتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة من أجل تحذير المسلمين من الوقوع في مثل هذا وكذلك السحر تعلمه وتعليمه كفر بالله عز وجل وادعاء علم الغيب عن طريق الكهانة أو عن طريق السحر والتنجيم والعرافة فهذا كفر يخرج من الملة وهكذا وهذا هو الذي يحكم عليه بالكفر وكذلك إذا حرم حلالا مجمعا عليه أو على حله أو أحل حراما مجمعا على تحريمه فإنه يكفر بذلك أو أنكر شيئا من الدين قد علم بالضرورة كما لو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو الحج فإنه يحكم عليه بالكفر أما من لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا يحكم عليه بالكفر حتى وإن كان الذي ارتكبه كبيرة من الكبائر فإنه يحكم عليه بالفسق وإن كان ارتكب خطأ أو معصية ومخالفة يحكم عليه بأنه مخطئ أو مخالف أو ما أشبه ذلك من الصفات التي تليق بما ارتكبه فالإنصاف يقتضي أن نزن الأمور بموازينها الشرعية ولا نطلق الكفر على كل ما من ارتكب مخالفة أو فعل ذنبا للشيخ إكسليك للشيخ الزي لشيخ كأنه الإسلام دون individu ont été définis par les ulama de l'islam. Donc le cheikh explique, il dit que celui qui a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui a invoqué d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il appelle au secours d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il sacrifie un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce cas-là, il est considéré comme un apostat de l'islam. Il a quitté l'islam parce que ce qu'il a fait, c'est un shirk majeur. Même s'il prononce le shahadatayn, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il sera quand même considéré comme un kafir à cause de ça, parce qu'il a commis un shirk majeur. De même que celui qui insulte Allah et son messager, ou qui se moque de quelque chose qui est dans le Coran ou dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se moque d'Allah, ou qui fait des blagues à propos d'Allah, ou du livre d'Allah, ou de son messager, ou de sa sunna, alors il est kafir. Même s'il dit ça pour blaguer, même s'il n'est pas sérieux. Et il mentionne le verset 65 et 66 dans Surat At-Tawbah à ce sujet-là. Et Allah il dit, dans le sens que si tu leur demandes, ils vont dire, on voulait uniquement jouer et nous amuser. Dis, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Donc dans cette parole, c'était quoi la parole qu'ils avaient dit? C'était qu'ils avaient dit que, ils disaient, on n'a jamais vu parmi nos savants, parmi les sahaba, ceux qui étaient les plus savants parmi les sahaba, ils disent, on n'a jamais vu parmi eux de plus menteurs, de plus gourmands et de plus peureux lors de la bataille que ceux-là. Et ils ont dit cette parole, et ils parlaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Alors Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait descendre le verset qui montre qu'ils sont des koufars, dans un verset qui est récité jusqu'au jour de la résurrection aujourd'hui. Et ça, c'est dans le but d'avertir les musulmans d'un tel comportement. Et il y a également la magie, la sihr, la sorcellerie. De l'apprendre, c'est kufr. Et de l'enseigner, c'est kufr. Donc même si tu ne l'appliques pas, juste le fait de l'apprendre et de l'étudier, c'est kufr. Ça fait sortir de la foi. Et de l'enseigner à quelqu'un, c'est kufr également. Ensuite, il dit, celui qui prétend connaître la connaissance de l'invisible, en disant que, par exemple, il est un médium ou un voyant qui peut prédire l'avenir, celui-là, il est kafir. Ou bien, par les méthodes de sorcellerie ou d'astrologie, ou d'autres méthodes, il y a plein de méthodes que les gens utilisent, soit en lisant dans la main, ou bien en lisant les cartes, ou d'autres méthodes. Tous ces gens-là qui prétendent pouvoir connaître l'avenir, ces gens-là sont des koufars et ceux qui croient en eux sont des koufars également. Aussi, il dit que, donc ça c'est une forme de kufr qui fait sortir de l'islam. De même que quelqu'un qui rend halal quelque chose qui est haram à l'unanimité des savants, ça c'est kufr. Ou quelqu'un qui rend haram quelque chose qui est halal à l'unanimité, ça aussi c'est kufr. Et celui qui nie quelque chose de la religion qui est connu par nécessité, même si cette personne-là, il nie, comme par exemple quelqu'un qui nie l'obligation de la prière, ou l'obligation de la zakat, ou l'obligation du jeûne, ou du hajj, par exemple, eh bien celui-là, s'il nie ces choses-là, avec connaissance, eh bien il est kafir. Et donc, ça c'est quelques exemples de choses qui font partie des nawaqid, des choses qui annulent l'islam de quelqu'un, et celui qui fait ou qui applique un de ces nawaqid, alors on jugera à son sujet qu'il est kafir. Tandis que celui qui fait un grand péché, parmi les grands péchés, on ne va pas dire qu'il est kafir, on va dire qu'il est fasir, ou qu'il est un pécheur. Mais on ne va pas le faire sortir de la foi. S'il a fait une erreur, ou s'il a fait un péché, une contradiction à l'islam, on va juger que c'est une personne qui a commis une erreur, ou qui a contredit, ou des choses de ce genre, donc on va les décrire selon la description qui s'apparente au péché qu'il a fait. Mais on ne va pas dire à son sujet qu'il est nécessairement kafir ou qu'il est en dehors de l'islam par rapport à ça. Il faut voir réellement la chose qu'il a fait, est-ce que ça rentre dans le kufr ou non. Si ça ne rentre pas dans le kufr, on va dire non, c'est un péché ou c'est une erreur qu'il a fait, mais on ne va pas dire que c'est un kafir. فمن أكل الربا مثلا نحكم عليه بأنه فاسق مرتكب لكبيرة إلا إذا استحل أو أي قال إن قال إن الربا حلال وحينئذ نقول إنه كافر لأنه استحل حراما مجمعا على تحريمه أما إذا أكله غير مستحل مستحل له فإنه يكون فاسقا ولا يخرج بذلك من الدين بل يعامل معاملة الفاسقين. الشيخ الزي si quelqu'un par exemple a mangé de l'intérêt et du riba, alors celui-là on ne va pas dire qu'il est kafir, on va dire qu'il a fait un grand péché puis on va dire qu'il est fasiq. Mais s'il le rend halal, il dit là, le riba c'est halal, dans ce cas-là on va juger qu'il l'a déclaré halal, donc il devient kafir, il sort de la foi parce qu'il l'a rendu halal. Mais s'il l'a fait seulement sans le déclarer halal, dans ce cas-là, on va dire que c'est un pécheur et on va agir avec lui comme étant un musulman qui a une foi faible. وإنما يطلق التكفير جزافا وإنما يطلق التكفير جزافا الجهل الذين يظنون أنهم علماء وهم لم يتفقهوا في دين الله عز وجل وإنما يقرؤون الكتب ويتتبعون العثرات ويأخذون مسميات التفسيق ويطلقونها بغير علم على غير أصحابها أو من يستحقها لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في موضعها لعدم فقههم في دين الله عز وجل ومثلهم في ذلك كمثل إنسان جاهل أخذ سلاحا وهو لا يعرف كيف يستخدمه فهذا يوشك أن يقتل نفسه وأهله وأقاربه لأنه لا يحسن استعمال هذه الآلة. ومن هنا يجب على هؤلاء الذين يأخذون مسميات التبديع والتفسيق والتكفير وهم لا يفقهونها أن يتعلموا قبل أن يتكلموا وأن يتقوا الله عز وجل لأن الكلام بغير علم لا سيما في هذه الأمور شر عظيم لأنه أيضا من الكلام على الله بغير علم وهذا أعظم من الشرك لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ولهذا يجب على شباب المسلمين وطلاب العلم أن يتعلموا العلم النافع من مصادره وعلى أهله المعروفين به ثم بعد ذلك يعلمون كيف يتكلمون وكيف ينزلون الأمور منازلها لأن أهل السنة والجماعة قديما وحديثا قد حفظوا ألسنتهم ولم يتكلموا إلا بعلم. Donc le cheikh il explique par la suite, il dit que il dit que ceux qui déclarent les gens kuffars de n'importe quelle manière sans respecter les principes et les règles de l'islam, ceux-là ce sont des ignorants qui se pensent être des savants alors qu'ils n'ont rien compris de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font que lire les livres et suivre ce qu'ils pensent être correct de ce qu'ils ont compris de ces livres-là. Et ils prennent différentes appellations comme yani, le tafsir et ils l'appliquent sans connaissance sur des gens qui ne sont pas ceux qui méritent d'être appelés par ces gens-là. Ils ne méritent pas ces appellations-là. Ils appliquent ces règles-là incorrectement parce qu'ils ne savent pas comment les appliquer. Et ils n'ont pas de compréhension de la religion d'Allah. Donc des gens comme ça, c'est comme des gens qui veulent utiliser une arme mais qui ne savent pas comment l'utiliser et qui commencent à tirer sur n'importe quoi et sur tout ce qui bouge. Donc ces gens-là, ils risquent de se tuer eux-mêmes ou même de tuer leurs proches et leurs familles parce qu'ils ne savent pas comment utiliser cet appareil ou cet outil ou cette chose. Et donc c'est ainsi qu'on voit que ceux qui utilisent cette façon de faire le tabdir ou de faire le tafsir ou de faire le takfir, hein, alors qu'ils n'ont pas de compréhension de ces termes-là et de ce que ces termes-là signifient ou impliquent, ils doivent apprendre avant de parler. Et ils doivent craindre Allah, parce que de parler à propos d'Allah sans connaissance, surtout à propos de ces questions-là, c'est un grand mal. Et aussi que de parler à propos d'Allah sans connaissance, c'est plus grave que le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 33 dans Surat al-A'raf, il dit, dit au Muhammad, aux hommes, que Allah a, votre Seigneur ou mon Seigneur a uniquement interdit les fawahish, les turpitudes qui sont pratiquées en apparence ou en secret. Et il continue le verset jusqu'à ce qu'il dise « et que vous disiez à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune connaissance ». Et il mentionne ça après avoir mentionné le shirk, etc. Donc, ça prouve que de parler à propos d'Allah sans connaissance, c'est ça ce qui amène à l'égarement et c'est ce qui amène au shirk et à d'autres péchés. Et il mentionne d'autres versets dans lesquels Allah nous avertit de ne pas parler à propos d'Allah avec ignorance et de préserver justement nos personnes et nos langues de dire des choses fausses à propos d'Allah et de mentir à propos d'Allah et de sa religion. Le cheikh il dit pour terminer, il faut donc que les jeunes musulmans et les étudiants, ceux qui recherchent la science islamique, apprennent la science bénéfique de ses sources et qu'ils retournent vers les savants pour l'apprendre et pour qu'ils sachent par la suite comment parler de ces questions-là et pour qu'ils sachent comment appliquer ces règles-là sur les personnes sur lesquelles ces verdicts-là s'appliquent réellement, parce que les gens de la Sunna, dans le passé comme dans le présent, ont toujours préservé leur langue de ces choses-là et ils font toujours attention de ne pas parler sans connaissance. Donc, on va s'arrêter ici pour cette présentation-là et bien entendu, c'est un résumé. Il y a beaucoup d'autres points, beaucoup d'autres questions qui doivent être clarifiées sur ces questions-là, qui n'ont pas pu être clarifiées aujourd'hui. J'ai fait un livre avec les frères à Montréal qui s'appelle c'est un livre de fatwa des ulama contemporains et c'est intitulé en français le manhaj des néo-khawarij. C'est environ 28 cours. Si vous allez dans le site, vous allez le trouver dans les durus ou dans les cours qui sont dans le fichier qu'on appelle les cours sur le manhaj. Et dans ce fichier-là, il y a un fichier qui s'intitule le manhaj ou la méthodologie des néo-khawarij. Et il y a dans ces cours-là des explications détaillées sur tout ce qui a rapport avec ces questions-là. Okay? Et il y a aussi un autre dans ce qu'on a fait dans la section Aqidah, 30 cours sur les choses qui annulent l'islam, Nawaqid al-islam. Ça aussi, ça aide et ça clarifie aussi beaucoup de ces questions-là. Et sinon, en général, il y a les livres sur le Tawhid et sur l'Aqidah qui traitent toujours un peu de ces questions-là également. Donc, c'est des choses qui sont bénéfiques, Inch'Allah, si vous voulez retourner à ces livres-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين